Bonjour à chacun et chacune. Ces derniers dimanches, il est vrai que nous réjouissons, nous voyons des têtes nouvelles, sans que les têtes plus anciennes et fidèles ne disparaissent. Constatons aujourd'hui dans les assemblées évangéliques, vous savez, c'est un peu, aujourd'hui on est dans les temps du zapping, alors des fois ça tourne un petit peu. Peut-être un jour un message ne plaît pas, alors on s'en va. Bon, c'est ainsi. Mais nous avons chanté que nous avons un Dieu inébranlable. Alors, c'est pas lui, si vous voulez, qui va s'adapter à nos changements d'orientation. Parce que lui, il est inébranlable. La direction est toujours la même. Le Père attire toujours à son Fils et à son Fils à la croix. C'est ainsi. Lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et nul ne vient au Père sans passer par moi, dit Jésus. Et nul ne vient à moi, dit Jésus, si le Père ne l'attire. C'est la confession de foi chrétienne. Jésus-Christ et toutes les Écritures nous montrent, nous révèlent, nous préparent, nous conduisent à Jésus-Christ. Voilà. Ce n'est pas du tout le thème de mon message. Mais je crois que c'est important. Nous avons vécu pendant ce temps de louange des moments forts en proclamant de se prosterner devant le Seigneur. Et effectivement, je crois que c'est là que on est remis à notre place. Alors c'est une expression qui est un peu négative, ça. Je l'ai remis en place. Non, on est repositionné où on est, des créatures du Créateur, du Dieu vivant, et tout de suite, on est mieux, vous savez. Comme quand on va chez un ostéopathe, je parle d'un ostéopathe qui fait que son travail, c'est-à-dire de s'occuper de réaligner un peu le squelette, eh bien, quand on est réaligné, on se sent mieux. Hein, et Dieu nous réaligne de temps en temps. Pour ceux qui viennent peut-être pour la première fois, ils ne sont pas au courant des épisodes précédents, de l'occasion des messages que j'ai pu apporter ces dernières semaines, mais alors on s'intercale au niveau de l'équipe pastorale, j'aurais peut-être pu enchaîner sur 3-4 dimanches, je ne l'ai pas fait, et je parle depuis le début de l'année des anciens sentiers, en référence à un texte que je vous relis ce matin, « Reçois instruction, Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Il pense à la légère les plaies de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, il n'y a point de paix. Ils seront confus car ils commettent des abominations, ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, ils seront renversés quand je les châtirai, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins et regardez et demandez, quels sont les anciens sentiers? Quelle est la bonne voie? Et marchez-y. Et vous trouverez le repos pour de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Évidemment, c'est pas, on va dire, ça ne nous concerne pas. Ça concerne le peuple hébreu qui, au bout de plusieurs siècles de miracles de Dieu, de bénédictions de Dieu, se sont écartés à maintes reprises. Et le rôle des prophètes, qui est un rôle bien, bien difficile. La parole prophétique est difficile parce qu'elle ne plaît pas, elle ne flatte pas l'ego, elle ne séduit pas. Mais ces prophètes, on réalise mal peut-être combien ils ont souffert. Je pense à Jérémie où le Seigneur l'envoie en disant « Parle-leur et ils ne t'écouteront pas ». Aujourd'hui, on aime bien l'efficacité, c'est un peu décourageant quand même. Mais il a parlé. Et plus tard, tandis que les jugements de Dieu, quand même, viennent par moments, pas le jugement définitif, mais le jugement qui nous reprend et qui nous remet en place, vient, eh bien, le peuple se souvient. C'est ça la parole prophétique aussi. Alors je rappelle le thème général, c'est comment y voir clair, y compris dans le monde religieux, devant la multiplicité des messages aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur, parce que à travers les entretiens, les échanges qu'un pasteur, qu'un berger peut avoir avec les uns ou les autres, on voit aujourd'hui la difficulté qu'il y a à s'y retrouver. Et je soulignais, je m'excuse parce que je pense que dans l'enseignement, c'est pas mal de revenir, pour ceux qui étaient là les épisodes précédents, dans les écueils qui nous guettent par rapport à cette parole de Jésus-Christ, « Mon royaume n'est pas de ce monde », il y a deux écueils. La tentation de la domination de ce monde, les chrétiens se disant « Nous sommes investis d'un message, d'un mandat pour changer le monde ». Eh bien, oui et non. Oui, en ce sens que nous sommes appelés à être sel et lumière, hein, mais je rappelle que nous ne sommes pas appelés à saler le monde. Le sel, il se dissout et il produit ses effets. On ne le voit pas. Ça, des fois, on le supporte mal de ne pas être vu. On ne le voit pas, mais il produit son effet. Et la lumière, j'aime à rappeler aussi que les lampadaires ne sont pas placés par le lampadaire lui-même. Il est placé par l'architecte et le constructeur pour éclairer là où l'architecte et le constructeur a décidé qu'il y avait besoin de lumière. Et nous sommes lampadaires dans ce monde. Ah, on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut. Le deuxième écueil, c'est la tentation de l'unité à tout prix qui peut paraître bon à l'âme, ça fait du bien à l'âme, on est tous ensemble, on pense tous la même chose, ou à peu près. Et donc ça plaît à l'âme, sauf que ça ne plaît pas forcément à Dieu. Il a dit « Je suis aussi venu apporter non pas la paix, mais l'épée », c'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent être séparées, et ce n'est pas l'unité à tout prix. J'ai donc traité deux thèmes jusqu'à présent, la séparation, le thème de la séparation, et je vous redonne juste la conclusion, il ne s'agit pas d'être... C'est une séparation intérieure, lorsqu'on a reçu la révélation de Jésus-Christ, lorsqu'on a reçu la révélation qu'on avait besoin d'être pardonné, que nous étions perdus, et que Christ est venu nous racheter, nous sauver, nous purifier. Ce n'est pas une séparation pour se séparer, pour avoir un regard hautain et méprisant sur le monde qui nous entoure, au contraire, mais c'est... accepter, c'est une séparation qui peut parfois être douloureuse parce que nous voyons plus les choses de la même façon et eh bien il faut le supporter. Et des choses que il ne faisait pas souffrir, on va voir chez nos proches des attitudes dont on sait maintenant où elles mènent et puis on peut pas toujours parler parce que ça sert à rien de parler, de discourir si c'est pas le temps. Il faut donc endurer, supporter, résister, tenir bon et continuer d'aimer. Et puis, j'ai parlé de la consécration, c'est pas séparer pour séparer, c'est séparer pour se consacrer, c'est-à-dire se donner. La consécration, c'est la réponse, je l'ai dit, d'un cœur qui a été changé, qui a été circoncis, et c'est une réponse de reconnaissance à celui qui l'a sauvé. Hein ? C'est une décision personnelle, c'est un don volontaire, non une obligation, c'est pas une nouvelle règle religieuse avec une religion qui serait meilleure que les autres, c'est vraiment... dans l'esprit de Jésus-Christ qui dit « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne », eh bien, il nous dit aussi « Car l'amour de Christ nous presse, nous t'en persuader que si un seul homme est mort pour tous, tous donc sont morts, et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent désormais de sa vie ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour ceux, lui, qui est mort et ressuscité pour eux. » Je donnais un exemple de David qui a accepté, David ce grand roi, un homme selon le cœur de Dieu, qui a accepté d'être le préparateur d'une œuvre accomplie par son fils. David avait à cœur de construire le temple de Salomon, il s'est effacé à la demande de Dieu, mais il a préparé pour un autre. Il a préparé, il s'est effacé, il a préparé pour un autre. La consécration, c'est aussi, et ça c'est un thème qui est dans nos vies important, l'abandon dans la liberté de notre volonté propre. Oh, quel chantier ! Je vois des visages qui j'ai pu échanger sur ces sujets-là. Abandon dans la liberté de sa volonté propre, et j'avais illustré avec cet esclave qui est libéré, son maître a affranchi, libéré, et qui, volontairement, cette fois-ci, c'est sa décision d'homme libre, revient vers son maître et te dit « Je veux rester avec toi, continuer à te servir parce que tu es un bon maître et que tu m'as aimé. » Et alors, cet esclave libéré va accepter lui-même d'être marqué par un poinçon dans l'oreille. Il ne s'appartient plus. Alors, vivre cette séparation intérieure, se consacrer à celui qui nous a rachetés, et la question se pose, mais que faire ? Et ce sera mon thème aujourd'hui, Seigneur, tu m'as racheté. Je veux vraiment te donner ma vie. Mais Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Ce sera mon thème aujourd'hui. En effet, la marche chrétienne, une marche séparée de l'esprit du monde et consacrée à servir le Seigneur Jésus-Christ, ne va pas de soi. Il ne suffit pas de s'approprier le vocabulaire chrétien concernant la direction divine. On entend souvent « le Seigneur a ouvert les portes, il a fermé les portes ». Mais parfois, et je cite un prédicateur, on m'a touché, « mais parfois les portes s'ouvrent et se ferment à une telle vitesse que nous devrions nous arrêter un instant pour savoir si c'est vraiment Dieu qui conduit notre vie et c'est lui qui est à la manœuvre ou si ce n'est pas nous qui tentons de garder la main sur nos affaires en mettant un petit coup de porte ouverte par Dieu ou pas. » Oui, Dieu ouvre des portes, Dieu ferme des portes. Quand il ouvre des portes, il faut avancer. Quand il ferme des portes, il faut s'arrêter. Et on a le vocabulaire des fois un peu léger. Il a ouvert, il a fermé, machin. À tel point que par moment, certains chrétiens, la parole le dit, les enfants de ce siècle sont parfois plus avisés que les fils du royaume. Il peut y avoir là un risque un peu de... Je mets un petit coup de vocabulaire religieux sur des choses où je continue de piloter mes affaires. Donc nous devons nous interroger. Et c'est ce matin, je vous invite à examiner cela à travers plusieurs textes où des hommes en sont venus à plutôt poser cette question. Que veux-tu que je fasse ? Alors je vous invite à lire, plusieurs passages. D'abord dans Luc, au chapitre 3, les versets 10. C'est dans le cadre de la prédication de Jean-Baptiste qui annonce « Préparez les chemins du Seigneur », etc. Et il invite les gens à venir se repentir, finalement, et puis à être baptisés d'un baptême de repentance. Enfin, je ne vais pas discourir là-dessus. Et au verset 10, des gens sont venus à lui. Jean-Baptiste les a accueillis assez vertement, comme s'il avait lu un peu dans leurs pensées. Race de vipère, manifestez donc plutôt des fruits de la repentance. C'est bien de venir vous faire baptiser, mais qu'est-ce qu'il en est dans votre vie ? Et au verset 10, la foule interpellée par tout ça, il est dit ceci, la foule l'interrogeait disant, « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dire, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Nous allons lire ensuite dans Jean, chapitre 6, verset 28. Nous allons parcourir un petit peu la parole de Dieu. C'est bon, ça permet de se repérer aussi. Jean 6, verset 28, c'est dans ce long chapitre de Jean où il y a... D'abord, une multiplication des pains, Jésus qui marche sur les eaux, qui rejoint ses disciples. Enfin, il se passe beaucoup de choses dans ce chapitre. Je vais lire à partir, c'est dans le, on va lire à partir du verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, écoutez bien, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit, les œuvres que vous devez faire, c'est ceci et cela. Non, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Jean 6, verset 67, toujours dans la suite de ce passage, beaucoup de gens sont bouleversés, certains vont quitter Jésus après des paroles, si vous mangez mon corps et buvez mon sang, vous ne pourrez pas avoir la vie éternelle, etc. Les gens sont choqués, certains quittent, et Jésus, au verset 67, Jésus donc dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Nous allons lire encore dans Actes 2, au verset 37, passage que connaissons bien dans nos assemblées. Après le discours de Pierre à la Pentecôte, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait ainsi, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » En acte 9, nous allons lire le passage, un extrait de la conversion de Paul, de Saul, sur le chemin de Tarse. Acte 9 au verset 3. Comme il était en chemin, Saul, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Jacques 4, verset 13. Jacques 4, verset 13. « À vous, maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Enfin, je vais faire un retour dans l'Ancien Testament, en 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20. C'est un épisode de la vie du roi Josaphat. Peut-être j'y reviendrai tout à l'heure selon le temps. À ce moment-là, des ennemis attaquent le royaume de Juda de manière violente. Et c'est Josaphat qui est roi. Et nous allons lire, je dirais, la prière de Josaphat dans cette circonstance. Donc, 2 Chroniques 20, au verset 6, ou au verset 5 déjà. « Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister ? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait ? Ils l'ont habité, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, « S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici, les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux ? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance donc contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Amen. Que veux-tu que je fasse ? Que faut-il faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? Que devons-nous faire ? Hommes, frères, que ferons-nous ? Nous ne savons que faire. Seigneur, que faut-il que je fasse ? Toutes ces personnes sont parvenues à un point dans leur vie où elles ne savent plus que faire et elles l'admettent. Et elles l'admettent, le reconnaissent et acceptent de demander à Dieu ou à ceux qu'elles reconnaissent comme ses serviteurs du Seigneur, que dois-je faire ? Je reviendrai sans doute, mais notez Paul, que veux-tu que je fasse ? Et quelle est la réponse de Dieu ? Vous l'avez entendu. Va dans cette ville et là on te dira ce que tu dois faire. Le voilà bien avancé. Va dans cette ville et là, on te dira ce que tu dois faire. Il est clair, le Seigneur, mais pas forcément très loin. Lampe à nos pieds, lumière sur le chemin. Mais il est clair. Ça amène quelque chose. Quand il dit ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Un chant qui dit, quand tu as parlé, Dieu a parlé, on ne peut plus douter. Donc il reste quoi ? Il reste à obéir. Aïe, 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 on en parlera la prochaine fois. Toutes ces personnes, notez également, je développerai un petit peu, sont imprégnées de la parole de Dieu. À la Pentecôte, c'est des juifs pieux, nous est-il dit. Josaphat, dans le texte que je vous ai lu, cite les paroles de Salomon lors de la dédicace du temple. Il les cite mot pour mot. Et il rappelle du coup à Dieu sa parole. Non pas avec exigence, vous avez vu que c'est un texte d'entière soumission à Dieu, d'entière soumission à la souveraineté de Dieu, mais il rappelle à Dieu. N'es-tu pas le Tout-Puissant ? N'es-tu pas ? N'es-tu pas ? N'es-tu pas ? Alors, n'exerceras-tu pas tes jugements ? Il ne lui dit pas, Seigneur, tu vas exercer tes jugements. N'exerceras-tu pas tes jugements ? Il y a une démonstration. Oui, on peut argumenter avec Dieu. Abraham a plaidé avec Dieu. Mais, prosterné devant lui, comme on l'a chanté. Les disciples de Jean-Baptiste sont pour la plupart des juifs enseignés dans les Écritures. Donc toutes ces personnes connaissent la parole de Dieu. Et pourtant, Paul connaît la parole de Dieu, élevé au pied de Gamaliel. Il connaît parfaitement les Écritures. Et pourtant, tous, connaissant les Écritures, arrivent à un moment dans leur vie où ils ne savent plus que faire. Quelque chose s'est passé dans leur vie. La manière dont la parole leur a été annoncée les dérange, les bouscule, et leur conscience n'est plus en paix. Soit qu'elles tentent de s'en défendre en posant la question « Quelles œuvres devons-nous faire ?» soit qu'elles aient maintenant capitulé, comme Paul, Josaphat ou les auditeurs du discours de Pierre. Voyons un petit peu cela en détail. Les disciples, dans Jean 6, ils ont faim et suivent Jésus, ils sont de la terre, dans la logique de la loi, et ils s'attirent cette réponse, non pas « Quelles œuvres nous devons faire ?» mais « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Renversement complet, bouleversement complet, bascule de la religion de la loi à la relation de la foi en une confiance dans une personne. Et quelle personne ? Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mais du coup, cela engage la vie. Ce n'est plus l'observance de règles, mais ça engage la vie. Et là, c'est un ébranlement complet, total. N'est-ce pas ? Quand on s'engage avec quelqu'un dans la vie, c'est pas rien. C'est autre chose que de passer un contrat avec des clauses. Moi, je respecte ça, toi, tu respectes ça. Le mariage, c'est pas le pax, c'est pas le concubinage. On s'engage. On se donne l'un à l'autre. On ne s'appartient plus à soi-même. Ça fait trembler, ça bouleverse. Ça bouleverse. Le contrat, on sait, ça a des bornes. Le contrat, ça a des bornes, il y a des clauses. Les anglo-saxons sont très très forts sur les contrats. Aujourd'hui, on devient très fort aussi dans nos pays. Toute la responsabilité est limitée jusque-là, pas au-delà, machin, truc, et puis il y a un recours, et puis... Ah, là, les disciples, j'insiste, c'est ça la question. Jésus leur dit. Eux, ils disent, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ils sont dans l'esprit de la loi, je leur en veux pas. Attention, ils sont dans l'esprit de la loi, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore ? Jésus répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez, que vous vous donniez, que vous me fassiez confiance à celui qui l'a envoyé, moi, Jésus-Christ. Bouleversement. Les disciples de Jean-Baptiste, un prophète puissant qui semble parler de la venue du Messie, mais annonce des choses difficiles, invite à la repentance. On dirait qu'il lit dans leurs pensées. Race de vipère, c'est pas sympa comme truc. Hein. Il les voit s'approcher. Pour être baptisé, il invite à la repentance, ces gens viennent, donc normalement c'est pour se repentir et être baptisé. Jean-Baptiste les voit venir, race de vipères. Produisez donc des œuvres dignes de la repentance. Ils sont repris dans leur conscience et leur cadre de bonne conscience religieuse est troublé. Que ferons-nous ? Produisez des œuvres dignes de la repentance, c'est-à-dire, vous dites que vous êtes chrétien, vous confessez de belles choses, mais qu'est-ce que vous vivez concrètement ? Jean-Baptiste est très concret dans sa réponse, rien d'exalté. Celui qui a deux vêtements, qu'il en donne un. Qui ne donne pas les deux, qu'il en donne un. Le percepteur des impôts, que ferons-nous ? Que devons-nous faire ? Qu'il n'abuse pas de sa position, qu'il fasse son travail de percepteur des impôts. Il n'est pas obligé d'user de sa position d'autorité pour en tirer un peu plus pour lui. Le soldat, contentez-vous de votre solde. N'abusez pas de l'autorité pour extorquer, pour violer, pour battre. Pas très idéaliste comme position. Nous sommes avec Jean-Baptiste. Mais déjà, des réponses simples. Notre témoignage doit d'abord être le changement dans nos vies. l'abandon du péché flagrant, soit par écœurement, c'est souvent ce que produit une vraie conversion, ce que je pratiquais me dégoûte, donc je n'ai pas trop de mal à l'abandonner, soit par obéissance à la parole. Peut-être qu'on ne le souligne pas assez, ça, des fois. C'est pour ça qu'il faut mieux la connaître. Parce qu'il y a des choses, on n'est peut-être pas éclairé, même au moment de la conversion. Il y a toujours un ou deux points, quand même, on est éclairé au moment d'une conversion, sinon il n'y a pas conversion. C'est quand même bien l'action du Saint-Esprit qui vient convaincre de péché de jugement, c'est le premier travail qu'il fait. Donc normalement, au moment de la conversion, il y a deux, trois choses qui étaient un peu grosses dans nos vies qui doivent disparaître. Mais il reste des choses. Et nous aurons à obéir à ce que nous aurons compris, tout simplement entendu, tout ce qui aura été, pu être enseigné, dire « Seigneur, ben, écoute, je n'étais pas au courant, mais maintenant j'ai, aide-moi. » Et puis, à cette occasion-là, nous rencontrerons des choses qui sont dans nos vies, qui nous dépassent, et nous disons, mais nous ne pouvons pas, je ne peux pas, Seigneur, c'est plus fort que nous. La parole nous le confirme, qu'il y a des choses qui sont plus fortes que nous. Mais ce que nous pouvons, je le répète, c'est vouloir. Seigneur, je ne peux pas, mais ce que je peux, c'est vouloir. Et Seigneur, je ne veux plus de ça. Et là, nous sommes dans cette position, je ne peux pas faire, Seigneur, je n'y arrive pas. Mais je désire ardemment me séparer de telle et telle chose et je reconnais que j'ai besoin d'aide. Et Seigneur Dieu, je te le demande d'abord à toi et puis je lui ai demandé l'aide, je lui ai accepté qu'on m'aide et aussi à ceux qu'il a placés autour de moi dans le corps. Je continue encore des Juifs pieux le jour de la Pentecôte. Ils connaissent les Écritures. Je vous renvoie à Acte 2, ceux qui étaient là à la Pentecôte venant de toute nation, des Juifs, des Hébreux, majoritairement, parlant de différentes langues, mais venant de toutes les nations, c'est des hommes, des femmes qui connaissent les Écritures, parce que cette Écriture, elle est prêchée depuis 1500 ans, depuis Moïse, elle est rappelée. C'est les Écritures, tous les textes de l'Ancien Testament qui sont connus, pas simplement d'une élite, de tout le peuple. Mais cette fois-ci, il y a un discours de Pierre, sous l'onction du Saint-Esprit. Et la démonstration, parce que c'est une démonstration que Pierre fait devant eux, elle vient de s'achever avec cette conclusion, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Ce Jésus que vous avez crucifié. Oh, on pourrait dire, dis donc, quel prédicateur, il se prend pour qui? Il accuse. Lui qui a renié il y a 50 jours, il accuse son auditoire. Vous avez crucifié Jésus-Christ. C'est sous l'onction du Saint-Esprit, c'est le temps pour que les cœurs soient touchés par cette parole. Mais surtout, ce qu'il leur dit, c'est que ce Jésus, homme sans défaut, ayant manifesté l'amour, il est le Christ, il est l'envoyé, il est celui que Dieu, le Père, a fait Seigneur. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu. C'est ça qui bouleverse ces hommes dans la conclusion. Parce qu'ils connaissent cette déclaration, bouleverse totalement leur théologie du Dieu invisible, tout-puissant, unique, qui ne peut être un homme. Ils sont bouleversés. Bouleversement dans les vies qui amènent à « Seigneur, que faut-il que je fasse ?» Je terminerai par Josaphat. Je vais prendre un petit peu le temps de développer ce texte. Josaphat est un roi de Juda qui a marché dans les voies, dans les bonnes voies de David, son père, son aïeul, qui a fait disparaître, puisque c'était la maladie chronique du peuple de Dieu, l'idolâtrie, et Josaphat est de ceux qui a fait disparaître l'idolâtrie, qui a rétabli les cultes, etc. Il nous est dit en 2 Chroniques 18, Josaphat a eu en abondance des richesses et de la gloire. Mais il nous est dit une petite chose là, il s'allia par mariage avec Akab. Akab, roi impie de Samarie, idolâtre jusqu'au dernier carat. Et cela va avoir quelques conséquences. Mais Josaphat est un roi qui règne avec justesse, etc. Et puis, à un moment, il va être... je ne sais plus où... Akab va l'inviter. Ils sont quelque part en famille. Je parle de famille charnelle. Et ils s'invitent. Il nous est dit, les deux rois étaient chacun sur leur trône, et Akab invite Josaphat à faire alliance pour aller combattre des rois ennemis, rois de Syrie. Josaphat, qui est un homme de Dieu, dit, il n'est quand même pas très très bien, il doit être un peu au courant quand même de ce qui se passe avec Akab. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas des prophètes qui pourraient nous dire un peu ce qu'on doit faire? Alors, Akab dit, il n'y a pas de problème. Il fait venir 400 prophètes, rien que ça. Et les prophètes disent, allez, vous allez vaincre, c'est bon. Josaphat, il n'est pas trop bien quand même. Il faut voir que Josaphat avait dit à Akab, un peu rapidement, je pense, mais ton peuple et mon peuple, allons ensemble dans un grand enthousiasme tout à fait charnel qui peut nous arriver. Allons-y, marchons, quelle ambiance, c'est bon, on y va. Après, il redemande quand même consulter les prophètes, on en consulte 400 qui disent allez-y, il aurait pu s'en tenir à ça. Il n'est vraiment pas bien, Josaphat, quand même. Il a dû voir qu'il s'est embarqué dans un truc pas clair. Il dit, mais il n'y en a pas d'autres, des prophètes. Alors, Akab lui dit, si, il y en a un autre, mais je ne le fais pas venir parce qu'il me dit que des méchantes choses. C'est Miché. Alors, Josaphat dit, ne dis pas ça quand même, fais-le venir. Et Miché dit, allez-y, vous allez avoir la victoire. Et alors là, c'est marrant. Akab dit, mais combien de fois je te dirai de me dire la vérité? Alors, c'est marrant, il dit, dis-moi la vérité, mais il n'en veut pas. Hein. Donc, Miché, là, lui fait un récit. Je vous raconte, vous pourrez vérifier tout ça. Hein. Lui fait un récit. Il a demandé à l'Éternel, comment faire avec Akab? Puisqu'il ne veut rien croire. Et il y a un esprit qui se lève, il dit, moi, je sais quoi faire avec Akab. Je vais aller vers ces prophètes, et on va leur mettre un esprit de mensonge, pour qu'ils prophétisent le mensonge. Et c'est ce qui se passe. À force de ne pas vouloir entendre la vérité, on croit au mensonge, et on est installé dedans. Et c'est ce qui se passe pour Akab. Après tout cela, Josaphat doit quand même pas être très très bien. Mais il va quand même. Il a été lié par ses paroles. Et ils vont aller dans ce combat. Je passe sur Akab qui va se déguiser. Au milieu de tout ça, Josaphat va être sauvé, Akab va mourir. Josaphat revient et là, un prophète le reprend. De la part de Dieu. Qu'est-ce que tu as été faire dans cette histoire? Depuis quand on va avec les méchants, avec ceux... Mais qu'est-ce que tu as été... Excusez-moi l'expression. Qu'est-ce que tu as été foutre là-dedans? Mais il est dit... Donc il est repris, vraiment par Dieu. Et... Mais Dieu dit, parce qu'il a été trouvé de bonnes choses chez toi. Je t'ai averti, je te reprends. Mais je te conserve ma bonté. Il va continuer son ministère. Pourquoi tout ce long préambule? Parce que je vais revenir au texte qu'on a lu. Le texte qu'on a lu, il commence en 2 Chroniques 20. Et il est bien écrit après cela, après ce que je viens de vous raconter. Josaphat a compris la leçon. Il a compris la leçon des choses qu'il a faites par lui-même. Il y a là un enseignement. C'est vraiment quelque chose par rapport à notre chair. Moi, ça m'a parlé dans ma propre vie. Des situations où je dis, ouais, pas de problème. C'est l'ancien homme. Pas des choses méchantes, pas des choses mauvaises. La bouche qui nous emmène, qui nous lie très vite. Et après, on est embarqué, on ne sait plus comment s'en sortir. Méditez vraiment ces textes. Méditez ces textes. Josaphat a été travaillé. Il a été travaillé. Il a été repris. Il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y est allé quand même. Le Seigneur fait grâce. Amen. Alléluia. Le Seigneur fait grâce. Mais acceptons d'être repris. Et Josaphat, lui, va entendre la leçon. Ce qui fait que dans ce nouvel épisode, où de nouveau il y a bien des attaques de l'adversaire, cette fois-ci, Josaphat va faire la prière que je vais vous relire, parce que peut-être elle va vous parler maintenant autrement. Il se tourne vers Dieu. Éternel Dieu de nos pères, il va avoir une prière entièrement fondée sur la parole de Dieu, sur la déclaration de Dieu. Écoutez bien. Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister ? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham ? Maintenant, il expose la situation. Voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et qu'il ne les a point détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force. Josaphat maintenant est sans force. Il a testé les alliances humaines. Il a testé la puissance des chars, du bouclier. Il a testé les alliances humaines. Là, il dit, je suis sans force. Devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, ce n'est pas devant ce danger supposé, le danger est là. Il se passe des choses terribles. Il ne sait pas comment il va s'en sortir. Il confesse. Est-ce là les paroles d'un leader ? Et nous ne savons que faire. Nous ne savons que faire. Ben, vous pouvez voir, tous les cours de management, ce n'est pas enseigné ça pour un leader. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Je lis la suite. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de, etc., Lévite d'entre les fils d'Azaph, et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Il a fallu arriver à ce point où Josaphat, le roi, en autorité, ne sache plus que faire, qu'il le reconnaisse, qu'il le confesse devant le peuple. Et là, Dieu est intervenu. Une belle leçon apprise par Josaphat que nous avons besoin, que j'ai besoin d'apprendre. Notez au passage, je voudrais tirer quelques enseignements de cela, son mariage, son alliance avec une femme de la famille d'Akab. Cela peut arriver. Faisons des alliances qui ne sont pas justes. Dès qu'on en prend conscience, je fais une parenthèse, peut-être les uns ou les autres, nous sommes mariés, peut-être certains sont convertis avec un époux, une épouse non convertie. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut rejeter l'époux, l'épouse non convertie. Hein. Soyons bien clairs sur ce sujet-là. Je ne parle pas ça. Je dis que peut-être si on voit un moment dans nos vies qu'on a fait des alliances qui n'étaient pas selon Dieu, qu'on a pris des engagements qui n'étaient pas selon Dieu, soyons en alerte, dire « Seigneur, maintenant, viens à mon secours. » Aide-moi. Parce que Josaphat n'a pas pris conscience, mais cela l'a embarqué dans des liens familiaux, des influences qui ont fini par le faire chuter. Je veux aussi souligner que le Seigneur, dans sa miséricorde, n'a pas laissé Josaphat sans faire la sortie de là. Il a donné une leçon à Josaphat. Josaphat a entendu la leçon. Si on est repris par Dieu, entendons la leçon. On peut se planter, on peut se tromper, on peut s'engager sur une mauvaise voie. Si le Seigneur nous a repris, disons Seigneur, ben écoute, voilà, merci pour la leçon apprise. On n'est pas obligé de persévérer dans les mauvaises voies. Quand la leçon est apprise, Dieu de nouveau parle. Dieu de nouveau parle. Dieu de nouveau y répond. Et il intervient. Alors, ce sera ma conclusion. Acceptons d'être pris par le Seigneur, d'être sondés dans notre pratique religieuse aussi. Je ne suis pas là dans une accusation, ce serait trop facile, mais acceptons d'être sondés sur nos motivations. Avons-nous calé les affaires parce que nous sommes chrétiens depuis 3 générations ? Nous savons, nous. J'entends ça des fois. Ou au contraire, parce que l'on vient de découvrir la foi, venant d'une famille ou religieuse ou athée, a-t-on oublié, dans tous les cas, ceux qui nous ont précédés ? Il peut arriver aux uns aux autres de s'enorgueillir de la connaissance de la vérité, oubliant que celle-ci nous a été révélée par celui qui est grâce et vérité. A-t-on perdu la reconnaissance et l'amour en retour de celui qui nous a aimés le premier ? Je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Cela peut nous arriver à tous, quels que soient nos parcours religieux, nos parcours évangéliques, nos parcours, je ne sais. Ça ne va pas être les mêmes écueils, tout à fait, pour les uns, pour les autres. Mais faisons attention à cette appropriation qui peut être orgueilleuse de la vérité et qui va amener un jugement sur les autres. Nous devons être séparés du monde, mais être lumière du monde. Ce que le Seigneur nous a révélé, ce n'est pas pour nous poser en juge chez lui, le juge. Ce n'est pas non plus pour tomber dans une confusion et faire alliance à tout va avec tout et n'importe qui et n'importe quoi. Supportons la souffrance, une certaine souffrance de la séparation. Demandons au Seigneur de discerner, reconnaissons pour cela que nous sommes sans force et demandons-lui, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et comme Josaphat, après la leçon, attendons la réponse de Dieu. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce de ce qu'un jour tu es venu nous chercher et qu'aujourd'hui encore, au milieu de nous, tu parles à des cœurs qui te cherchent, tu parles à des cœurs qui sont dans la détresse. Et Seigneur, tu vas te révéler à ces cœurs. Tu le fais, Seigneur, en ce moment. Tu parles au cœur. Et tu attires. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, en Jésus-Christ. Seigneur, merci, parce que tu as fait cela dans nos vies. Et Seigneur, et nous avons marché. Et Seigneur, je reconnais pour ma part, j'ai aussi marché avec encore ce qui avait fait ma force. Seigneur, comme Moïse qui a été élevé à la cour de Pharaon et qui était puissant en œuvre selon l'enseignement de l'Égypte, Seigneur, nous avons pu être dans la confusion. Mais maintenant, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes sans force. Si cette force ne vient de toi, Seigneur, cette force même, nous ne pouvons pas nous l'approprier ou la saisir ou la mettre dans notre main. Mais nous reconnaissons que nous sommes sans force et nous attendons de toi, le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui sauve à main forte et à bras étendus, celui qui corrige, celui qui reprend, celui qui juge, non pas définitivement, mais pour que nous soyons jugés, tandis que nous sommes sur cette terre, pour ne pas l'être lorsque nous serons devant toi. Père Saint, Père Saint, révèle-nous ce que nous devons faire. Nous avons besoin de toi. Seigneur, ce matin devant mes frères, je suis sans force, mais mes yeux sont sur toi, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui et demain. Amen.